Chapitre 7. Loyauté. Kenneth baissa les yeux sur le manuscrit qu'il tenait dans les mains. Les fragments de cire sur son bureau portaient le sceau de Sinker Faldin. Ce riche marchand s'était fait une raison après la perte de sa femme et d'une de ses filles. Ses fils et son navire avaient échappé à l'assaut des trafiquants d'esclaves, en effet, et ils étaient à ce moment-là absents de partage. Comme Kenneth l'avait prédit à son second, Sinker avait consenti au mariage de Sorcor avec Alice, car le négociant de Dorian avait toujours été prompt à voir d'où soufflait le vent. Ce message urgent n'était qu'une nouvelle tentative pour s'insinuer dans les bonnes grâces de Kenneth. C'est pourquoi le pirate le jugeait douteux. L'écriture sur le parchemin était laborieuse, contournée, l'expression empruntée. Un bon tiers de la feuille était dévolu à des salutations prolixes et à des vœux de bonne santé. Voilà qui était bien du marchand de Dorian, de s'appliquer ainsi à gaspiller son encre et son temps avant de divulguer ses fâcheuses nouvelles. Malgré les battements qui lui martelaient le cœur, Kenneth se força à relire le manuscrit avec un visage impassible. Il passa au crible la prose fleurie du négociant pour en tirer les faits. Faldin s'était méfié des étrangers qui étaient arrivés à partage et avait été parmi les premiers à soupçonner que leur navire était une vive nef. Il avait demandé à son fils d'attirer le capitaine et sa compagne dans sa boutique et de les gaver d'histoire pour les amener à parler un peu d'eux-mêmes, mais sans grand succès. Leur brusque départ au milieu de la nuit était aussi étrange que l'avait été leur arrivée, et les récits faits le lendemain par les hommes qui avaient déserté le navire confirmaient ses soupçons. À bord, il y avait une certaine Althea Vestrit qui prétendait être la propriétaire de la Vivacia. Chose curieuse, l'équipage était mixte, femmes et hommes, mais le capitaine était ce Brachentrell, ancien de « la veille du printemps », et avant cela natif de Terrilville, du moins ce qu'on disait. S'il fallait en croire les déserteurs, la véritable mission du navire était de reprendre la vive nef Vivacia. Leur vive nef à eux, dont la figure de proue était fort abîmée, s'appelait le Parangon. Il eut l'impression que le nom se gravait dans ses yeux. Il lui fut difficile de se concentrer sur les circonvolutions qui suivèrent, apportant les ragots et les rumeurs transmises par les oiseaux, à savoir que Jamelia armait une flotte pour mener une expédition punitive contre Terrilville suite à l'enlèvement du gouverneur et à la destruction de son quai des taxes. Selon l'opinion éclairée de Faldin, les nobles jaméliens cherchaient depuis longtemps le prétexte de piller Terrilville. Il paraissait l'avoir trouvé. Kenneth haussa les sourcils, sceptique. Le gouverneur avait quitté Jamelia pour Terrilville et y avait été enlevé. Toute cette histoire paraissait à dormir debout. La substance de la rumeur, évidemment, c'était la flotte punitive jamélienne. Les navires de guerre résolus, croisant dans les eaux des îles des pirates, étaient à éviter. Mais au retour, nantis de leur butin de guerre, ils constitueraient des proies bien grasses. Ces serpents lui faciliteraient la tâche. La missive s'achevait sur une nouvelle série de compliments fervents et de bons vœux, et rappelait de façon moins que subtile que Kenneth devait savoir gré à Sinker Faldin de lui avoir transmis ses nouvelles. Tout en bas, une signature alambiquée en deux couleurs suivie d'un post-scriptum d'un goût douteux, exprimant le ravissement du marchand devant le fruit issu de la graine de Sorcor qui mûrissait en Alice. Kenneth reposa le manuscrit sur son bureau et le laissa se rouler tout seul. Sorcor et les autres réunis dans sa chambre attendaient avec flegme les nouvelles. Le messager avait suivi les instructions de Faldin en remettant le message à Sorcor qui devait l'apporter immédiatement au capitaine Kenneth, et ce probablement pour que Sorcor pût admirer l'intelligence et la loyauté de son beau-père. Ou bien, y avait-il encore autre chose? Sorcor ou Sinker Faldin pouvait-il avoir idée de ce que ces nouvelles signifiaient pour Kenneth? Y avait-il eu un autre message, uniquement destiné à Sorcor, dans lequel Faldin lui conseillait de guetter les réactions de son capitaine? L'espace d'un instant, le doute et le soupçon le dévorèrent, mais un instant seulement. Sorcor ne savait pas lire. Si Faldin avait voulu entraîner son gendre à comploter contre Kenneth, il avait mal choisi son agent. À la première lecture, en découvrant le nom de la vive nef et sa description, Kenneth avait senti son cœur bondir dans sa poitrine. Il s'était efforcé à respirer posément et avait conservé son impassibilité. Une deuxième lecture, plus lente, lui avait donné le temps de composer sa voix et son attitude. Il y avait beaucoup de questions. Faldin soupçonnait-il le rapport? Si oui, comment? Il n'en disait rien, à moins que les mots se rapportant au matelot déserteur du Parangon ne soient une allusion. Ces hommes savaient-ils ou avaient-ils parlé? Cette Althea Vestrit savait-elle, et si oui, avait-elle l'intention d'une façon ou d'une autre d'utiliser Parangon comme arme contre lui? Si l'affaire était connue, dans quelle proportion? Suffirait-il cette fois encore de liquider quelques hommes et de couler un navire pour faire taire les bruits? Son passé était-il donc insubmersible? Brièvement, Kenneth caressa l'idée folle de fuir. Il n'était pas obligé de retourner à Partage. Il avait une vive nef et une flotte de serpents à sa disposition. Il pouvait tout abandonner, aller n'importe où, la mer était partout, et continuer à faire sa pelote. Il faudrait tout recommencer, bien sûr, pour établir sa réputation, mais les serpents lui garantiraient en cela la rapidité. Il leva brièvement les yeux et passa en revue les hommes présents dans sa chambre. Ils devraient tous mourir, malheureusement. Même Yéma, pensa-t-il avec un pincement au cœur. Et il faudrait qu'il se déleste de son équipage et qu'il le remplace d'une manière ou d'une autre. Cependant, le navire saurait qui il avait été.
« Capitaine ?»
demanda doucement Sorcor. La rêverie créva comme une bulle. C'était irréalisable. Beaucoup plus pragmatique, retourner à Partage, se débarrasser de ceux qui avaient des soupçons et continuer comme avant. Évidemment, il y avait Parangon, mais il s'était occupé de lui une fois. Il n'aurait qu'à réitérer. Il repoussa cette idée. Il ne pouvait regarder la chose en face pour le moment.
« Mauvaise nouvelle, capitaine ?»
osa demander Sorcor. Kenneth réussit à esquisser un sourire sardonique. Il fragmenterait les nouvelles et verrait si quelqu'un sourcillait.
« Nouvelle comme nouvelle, capitaine Sorcor. C'est au destinataire d'en tirer profit ou non. Mais celles-là sont intéressantes. » Nous sommes tous ravis d'apprendre que ton Alice s'arrondit. Sinker Faldin rapporte aussi qu'un étrange navire a visité Partage, prétendant se joindre à notre croisade pour débarrasser la passe intérieure des transports d'esclaves. Mais notre bon ami n'est pas convaincu de la sincérité de son équipage. Le navire est arrivé assez mystérieusement au port en pleine nuit et s'en est allé de même.
Il jeta un regard détaché au manuscrit.
Et le bruit court que Jamelia arme une flotte pour piller Terrilleville en représailles d'un affront infligé au gouverneur.
Il s'adossa avec désinvolture à son siège pour avoir une meilleure vue des visages. Etta était présente avec Yéma à ses côtés. On dirait qu'il est toujours à côté d'elle ces derniers temps, songea-t-il brièvement.
Sa large figure, couturée de cicatrices, rayonnant de loyauté, de dévotion envers Kenneth et d'orgueil à la fécondité de sa femme, Sorcor se tenait près de Yola, second sur la Vivacia. Ils étaient tous resplendissants des fruits de leurs récents exploits. Etta avait même convaincu Yéma de revêtir une chemise à manches amples de soie bleu foncé, ornée de corbeaux brodés de sa main. Le solide Sorcor arborait des émeraudes aux oreilles et un large ceinturon de cuir incrusté d'argent avec deux épées assorties. La splendeur des tissus d'État était rehaussée par leur coupe remarquable. Avait-on jamais avant elle porté du drap d'or pour grimper à un mât? La cale abritait d'autres récoltes encore. De rares médicaments et essences exotiques, des pièces d'or et d'argent à l'effigie de nombreux gouverneurs, des joyaux bruts et taillés, de fabuleuses fourrures, d'éclatantes tapisseries. Les richesses accumulées dans les soutes équivalaient facilement aux produits de toute l'année passée. La chasse avait été abondante ces derniers temps. La piraterie n'avait jamais été si facile. Flanqué de sa flottille de serpents, il n'avait plus qu'à repérer une voile attrayante. Foudre et Kenneth choisissaient leur cible, elle envoyait ses serpents et la proie se rendait. Au début, il rattrapait les bâtiments démoralisés et demandait la remise de tout ce qui avait de la valeur. Les équipages s'étaient toujours montrés dociles et empressés. Sans coup férir, Kénith plumait les navires, puis les laissait poursuivre leur route, non sans leur rappeler sévèrement que ces eaux étaient désormais province du roi Kénith des îles des pirates. Et il suggérait que si leurs armateurs étaient prêts à acquitter des taxes substantielles pour traverser son territoire, il serait peut-être disposé à traiter avec eux. Il avait ordonné au serpent d'aller chercher pour lui les deux derniers vaisseaux. La Vivacia mouillait, en attendant que les serpents rabattent vers elle le troupeau de ses victimes. Le dernier capitaine s'était rendu à genoux pendant que Kénith trônait dans un fauteuil confortable sur le gaillard d'avant de la Vivacia. Foudre fit ses délices de la terreur qu'à sa vue le capitaine captif dissimula mal. Après que Kénith eut fait son choix sur le manifeste de la cargaison, l'équipage capturé avait dû transporter le chargement. Le seul souci de Kénith était d'éviter que les hommes ne s'ennuient ou ne deviennent trop contents de soi. De temps à autre, il prévoyait d'arrêter un transport d'esclaves pour permettre à l'équipage de satisfaire ses pulsions sanguinaires et aux serpents de se repaître, ce qui aurait pour effet de fortifier leur fidélité à son égard. Le message de Faldin était arrivé sur un petit vaisseau rapide, le Follet. Bien qu'il battît le pavillon du corbeau et que Yola l'eût reconnu, Kénith ni Foudre n'avaient pu résister à faire montre de leur force. Les serpents avaient été envoyés pour entourer le petit bateau et l'escorter. Le capitaine avait affiché une certaine bravoure en saluant Kénith, mais n'avait pu complètement maîtriser le chevrotement de sa voix. Le messager avait débarqué, blême et muet, sur le pont de la Vivacia, car il avait fait la traversée dans un modeste canot parmi les dos étincelants des serpents. Kénith avait pris la missive et congédié le matelot en lui accordant une ration d'eau-de-vie bien méritée. Tous les hommes à bord du Follet parleraient à partage des nouveaux alliés de Kénith. S'il était bien d'impressionner ses ennemis par une démonstration de force, il était mieux encore de s'assurer que ses amis ne l'oublieraient pas. Kénith songeait à tout cela tandis qu'il considérait posément les visages autour de lui. Sorcor plissa le front, appliqué à réfléchir.
Faldin connaissait le commandant? Il devrait. Le bougre, il connaît presque tout le monde à partage. Et il faut être dégourdi pour amener un navire à travers le marécage, même en plein jour.
Il le connaissait, confirma tranquillement Kénith. Un certain Brachentrell, de Terrilville. J'ai cru comprendre qu'il avait fait des affaires à partage l'année dernière, sur la veille du printemps avec le vieux Fainy. Il feignit de jeter un coup d'œil sur la lettre. Peut-être que ce Trell est un navigateur hors pair, doué d'une excellente mémoire, mais Faldin a idée que c'était plutôt grâce à son navire. Une vive nef. La figure abîmée. Du nom de Parangon. Le visage de Yémin le trahit. Il avait rougi au nom de Trell. Maintenant, il restait là, bouche cousue et transpirant. Intéressant. Impossible que le gosse soit de mèche avec Faldin. Il n'avait pas eu assez de temps libre à partage. Alors c'était autre chose. Comme par hasard, il croisa le regard du garçon. Il lui sourit bénignement et attendit. Yémin avait l'air accablé. Deux fois, il ouvrit la bouche puis la referma avant de se racler la gorge. « Commandant ? » chuchota-t-il.
« Yémin ?»
fit Kénith sur un ton chaleureux. Le garçon croisa les bras. Quel secret cherchait-il à cacher ? Se demandait Kénith. Yémin reprit d'une petite voix. « Vous devriez prendre au sérieux l'avertissement de Faldin. Brachentrell était le second de mon grand-père, le capitaine Efron Vestrit. Peut-être essaie-t-il vraiment à se joindre à vous, mais j'en doute. » Il a servi à bord de la Vivacia pendant des années et il voue peut-être une grande fidélité au Vestrit, à ma famille. À ces mots, il serra les doigts sur ses bras. Alors nous y voilà. Yémin choisissait d'être loyal envers Kénith, mais il avait tout de même l'impression de trahir sa famille. Intéressant. presque touchant. Kenny tambourina de ses doigts sur la table.
« Je vois. »
Un vague frémissement avait parcouru le navire à la mention de son vieux capitaine. C'était encore plus intéressant que la loyauté partagée de Yémin. Foudre prétendait qu'il ne subsistait rien de l'ancienne Vivacia. Pourquoi alors tremblait-elle au nom du capitaine Vestrit? Le silence régnait. Yémin avait les yeux rivés au bord de la table, le visage inerte, les mâchoires crispées. Kenith réfléchit puis lâcha un dernier détail. Il eut un petit sourire résigné.
« Ah, ce qui expliquerait la présence d'Altea Vestrit parmi l'équipage. Des déserteurs du Parangon disent qu'elle a l'intention de me reprendre la Vivacia. »
Nouveau tremblement du navire. Yémin se figea, pâlit.
« Altea Vestrit est ma tante, » dit-il faiblement. Elle était étroitement liée au navire, même avant son éveil. Elle croyait hériter de la Vivacia.
Il déglutit.
« Kenith, je la connais. Pas bien, pas parfaitement, mais en ce qui concerne son navire, on ne la dissuadera pas. Elle va essayer de reprendre la Vivacia, c'est sûr et certain. »
Kenith eut un léger sourire.
« À travers une muraille de serpents ? Si elle en réchappe, elle découvrira que Vivacia n'est plus ce qu'elle était. Je ne crois pas que j'ai à m'en faire. »
« Plus ce qu'elle était ?»
répéta Yémin dans un murmure, le regard lointain.
« Et nous, sommes-nous ce que nous étions ? »
demanda-t-il, et il enfouit la tête dans ses mains.
Malta en avait assez des bateaux. Elle avait en horreur les odeurs, le mouvement, la nourriture infecte, les hommes grossiers, et par-dessus tout, elle détestait le gouverneur. « Non, corrigea-t-elle. Bien pis. Elle enrageait de ne pouvoir lui montrer à quel point il la répugnait et elle le méprisait. »
Le navire ravitailleur chalcédien les avait repris depuis quelques jours. Le corps de Keki avait été abandonné à la hâte sur la galère qui faisait eau. Alors que Malta et les autres étaient hissés en sécurité à bord du trois-mâts, leur sauveteur huait en montrant du doigt la galère qui coulait. Malta se doutait que le capitaine de la galère avait perdu en même temps que son navire une grande partie de son prestige, ainsi que ses droits sur ses hôtes, car on n'avait pas revu l'homme depuis lors. La cabine particulière qu'elle partageait maintenant avec le gouverneur était plus grande, munie de parois solides et d'une porte qui fermait bien. Il y faisait plus chaud et plus sec que sous la tente de fortune sur le pont de la galère, mais la pièce était tout aussi nue, privée de fenêtres et pourvue seulement du strict nécessaire. On leur apportait à manger et on reprenait leur vaisselle. Une fois tous les deux jours, un garçon vidait leur seau d'aisance. L'air de la cabine était confiné, étouffant. L'unique lanterne qui se balançait à une poutre fumait sans cesse, ajoutant encore à l'atmosphère oppressante. Une petite table pliante était fixée à la cloison ainsi qu'une couchette étroite nantie d'un méchant matelas et de deux couvertures. Le gouverneur mangeait assis sur la banette, Malta debout. Le pot de chambre était logé sous la couchette, retenu par un barreau pour l'empêcher de glisser. Une cruche d'eau et une chope étaient posées sur une courte étagère à rebord près de la porte. C'était tout. Comme Malta refusait de partager le lit avec le gouverneur, le plancher était sa couche. Quand il était endormi, elle pouvait parfois chiper une des couvertures d'entre ses mains molles. Quand on leur avait montré la cabine, que la porte avait été refermée sur eux, Kosgo avait regardé lentement autour de lui. Les lèvres blanches de fureur, il avait demandé
« C'est le mieux que vous ayez pu faire pour nous ?»
Elle n'était pas encore sortie de son hébétude. Elle avait failli se faire violer. La mort de Keki et le transbordement soudain sur le nouveau navire l'avaient ébranlée.
« Que j'ai pu faire pour nous ?»
répéta-t-elle stupidement.
« Allez immédiatement leur dire que je ne tolérerai pas ceci. Tout de suite !»
Ses nerfs lâchèrent brusquement. Elle maudit les larmes qui remplirent ses yeux et ruisselèrent le long de ses joues.
« Et je fais comment au juste ? Je ne parle pas chalcédien.
Je ne sais pas à qui me plaindre de toute façon, et ces sauvages ne m'écouteraient pas. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, les Chalcédiens ne sont pas précisément respectueux des femmes. »
Il eut un reniflement de mépris.
« Pas des femmes comme vous. Si Kiki était là, elle aurait eu tôt fait d'arranger les choses. C'est vous qui auriez dû mourir. Au moins Kiki, elle, savait se débrouiller. »
Il alla à la porte, l'ouvrit brutalement, et dans l'encadrement se mit à hurler jusqu'à ce qu'un matelot arrive. Il s'époumona en chalcédien. L'homme, visiblement perplexe, avait regardé le gouverneur, puis Malta, puis de nouveau le gouverneur. Enfin, il s'était vaguement incliné et avait disparu.
« C'est votre faute, il ne revient pas !»
avait craché Kosgo en se jetant sur la couchette. Il s'était fourré sous les couvertures sans plus faire attention à elle. Malta s'était assise dans un coin et avait boudé. Le matelot n'était pas revenu. Ce coin était devenu son coin. Elle y était assise maintenant, dos à la cloison, et contemplait ses pieds crasseux. Elle avait envie de sortir sur le pont pour respirer de l'air pur et frais, pour voir le ciel et surtout pour découvrir dans quelle direction ils allaient. La galère avait vogué vers le nord, vers Chalcède. Le navire qui les avait recueillis faisait route vers le sud. Mais elle n'avait aucun moyen de savoir s'il avait gardé son cap ou viré vers Chalcède. Être ainsi enfermée, ignorant comment se terminerait le voyage, c'était une torture de plus. L'oisiveté forcée et l'ennui formaient la trame de ses jours. Et elle ne pouvait tirer aucune information du gouverneur. Le roulis du navire, avec sa coque à bouchon rond, le rendait malade. Quand il ne vomissait pas, il se plaignait de la faim et de la soif. Et lorsqu'on lui apportait à manger, il se goinfrait pour rejeter tout quelques heures après. Avec chaque repas, il avait droit à quelques brins de grossière herbe à fumer. Il enfumait l'air de la cabine jusqu'à ce que Malta en ait des vertiges, tout en se plaignant de la piètre qualité de l'herbe qui lui irritait la gorge et le laissait inapaisé. En vain, Malta l'implorait-elle de prendre un peu l'air, mais il se bornait à rester couché, à gémir, ou à lui réclamer une friction des pieds ou du cou. Tant que le gouverneur demeurait confiné dans sa cabine, elle était aussi en prison. Elle n'osait pas se risquer dehors sans lui. Elle frotta ses yeux brûlants. La lumière de la lanterne les irritait. On avait déjà débarrassé les reliefs de leur repas de midi. Les heures jusqu'au dîner s'étiraient interminablement devant elle. Kosgo, passant outre ses conseils, s'était une fois de plus empiffré. Il tirait maintenant des bouffées d'une petite pipe noire. Il l'ôtait de sa bouche, la regardait d'un air furibond, puis la remettait entre ses lèvres. Sa mine maussade ne présageait rien de bon pour Malta. Il remua sur la couchette, puis fit un renvoi peu discret.
« Un petit tour sur le pont vous faciliterait la digestion ?»
suggéra Malta à mi-voix.
« Oh, taisez-vous. Rien qu'à l'idée de marcher, j'en ai des hauts le cœur. »
Il retira brusquement la pipe de sa bouche et la lui lança. Sans attendre sa réaction, il se retourna nez à la cloison pour signifier la fin de la conversation. Malta reposa sa tête en arrière. La pipe ne l'avait pas atteinte, mais la menace implicite de ce geste d'humeur lui avait ébranlé les nerfs. Elle essaya de réfléchir à ce qu'elle allait faire. Les larmes étaient proches. Elle serra les mâchoires, crispa les poings sur ses yeux. Elle ne pleurerait pas. Elle était la descendante coriace de gens déterminés. Une fille de marchand de Terrilville. Qu'est-ce qu'aurait fait grand-mère ? S'interrogea-t-elle. Et Althea ? Elles étaient fortes et astucieuses. Elles auraient trouvé une issue. Malta se rendit compte qu'elle suivait machinalement de son doigt la cicatrice qu'elle avait au front, et elle retira sa main. La plaie s'était refermée, mais le tissu cicatriciel avait une texture grumeleuse et désagréable. La cicatrice, bourrelée, d'une longueur de doigt, s'étendait jusqu'à la naissance des cheveux. Elle se demanda à quoi cela ressemblait et déglutit, le cœur chaviré. Elle ramassa les genoux et les serra contre sa poitrine. Elle ferma les yeux mais lutta contre le sommeil qui lui apportait des rêves terribles où lui revenait tout ce qu'elle refusait d'affronter dans la journée. Elle rêvait de Selden, ensevelie dans la cité, de sa mère et de sa grand-mère qui lui reprochaient de l'avoir entraînée à sa perte.
Elle rêvait de Dilo, qui reculait horrifié devant le visage défiguré de son ami. Elle rêvait de son père, qui se détournait obstinément de sa fille déshonorée. Le pire, c'était quand elle rêvait de Rain. Ils dansaient, la musique était douce, les torches rougeoyaient. D'abord, ses mules se désintégraient, révélant ses pieds sales couverts de croûtes. Ensuite, sa robe se transformait soudain en guenilles crasseuses. Enfin, ses cheveux ternes et plats tombaient sur ses épaules. De sa cicatrice suintait un liquide, et Rain la repoussait. Elle s'étalait par terre de tout son long, les danseurs l'entouraient, la montraient du doigt, horrifiée. « Un instant de beauté détruite à jamais !» et se raillait d'elle. Quelques nuits auparavant, le rêve avait changé. Il avait été si réel, presque comme les visions partagées de la boîte à rêves. Il cherchait à lui prendre les mains. « Malta, tends-toi vers moi » avait-il supplié. « Aide-moi à venir jusqu'à toi !» Mais, même dans le rêve, elle savait que c'était inutile. Elle avait serré les mains derrière le dos et caché sa honte. Mieux valait ne plus jamais le toucher que lire sur son visage pitié ou répugnance. Elle s'était réveillée en sanglotant, frappée au cœur par la douceur de sa voix. Ce rêve avait été pire que les autres. Quand elle pensait à Rain, son cœur lui faisait mal. Elle effleurait ses lèvres, se rappelant le baiser volé, l'étoffe souple de son voile qui séparait leurs bouches. Mais tous les doux souvenirs étaient frangés de regrets aigus. Trop tard, à jamais. Avec un soupir, elle releva la tête et ouvrit les yeux. Soit. Elle était ici, sur un navire en route pour ça savait où, vêtue de loques, défigurée, dépouillée de ses droits et de son rang de fille de marchand, en compagnie d'un insupportable petit fat. Elle ne pouvait certainement pas compter qu'il ferait quoi que ce soit pour améliorer leur situation. Il se contentait de rester couché à pleurnicher, que ce n'était pas une façon de traiter le gouverneur de Jamelia. Manifestement, il n'avait toujours pas saisi qu'ils étaient prisonniers des Chalcédiens. Elle regarda Kosgo et s'appliqua à le considérer de façon impartiale. Il était blafard et décharné. Maintenant qu'elle y songeait, il ne s'était guère plaint depuis un jour ou deux. Il négligeait sa personne. Quand ils étaient arrivés à bord, il avait essayé d'entretenir son apparence. N'ayant ni peigne ni brosse, il avait ordonné à Malta de le coiffer avec ses doigts. Elle s'était exécutée sans pouvoir dissimuler tout à fait son dégoût. Il était flagrant que Kosgo appréciait fort son contact, plaquant son corps au sien quand elle s'asseyait au bord du lit. Avec une grotesque coquetterie, il s'était moqué d'elle, prédisant qu'un jour elle se vanterait d'avoir servi le gouverneur durant ses épreuves. Mais il leur dirait à tous qu'elle avait manqué lamentablement à son devoir de sujette et de femme, à moins que... Alors il lui avait pris le poignet pour l'attirer vers un endroit précis qu'elle se refusait à toucher. Elle s'était dégagée d'une secousse et s'était retirée. Mais tout cela, c'était avant que la maladie n'ait eu raison de lui. Depuis qu'il était souffrant, il était chaque jour plus silencieux. Elle fut saisie d'une subite inquiétude. S'il mourait, qu'adviendrait-il d'elle? Elle se rappelait vaguement ce qu'avait dit Keki sur la galère. Elle plissa le front et les paroles lui revinrent. « Son statut nous protégera, si nous le protégeons. » Elle se redressa toute droite et le considéra fixement. Ici, elle n'était pas une marchande de Terrilville. Pour survivre sur ce navire, elle devait penser comme une Chalcédienne. Elle s'approcha de la couchette et se pencha sur Kosgo. Ses paupières closes étaient sombres. Il serrait faiblement la couverture de ses doigts maigres. Elle avait beau le détester, elle se surprit à avoir pitié de lui. Qu'avait-elle donc dans la tête pour avoir pu imaginer qu'il ferait quoi que ce soit pour améliorer leur situation? Ce serait à elle d'agir. Le gouverneur attendait de ses compagnes qu'elle pourvoie à tous ses besoins. Bien plus, c'était aussi l'opinion des Chalcédiens. Elle le comprit soudain. Elle était restée à trembler dans la cabine alors qu'elle aurait dû se fâcher et exiger qu'on le traitât avec égard. Les Chalcédiens ne respectaient pas un homme dont la compagne mettait le pouvoir en doute. Le gouverneur avait raison.
C'était elle et non lui qui les avait condamnés à ce sort misérable. Elle espérait seulement qu'il n'était pas trop tard pour relever son prestige. Malta lui retira la couverture malgré ses marmottements de protestation. Comme elle avait vu sa mère le faire quand Selden était malade, elle lui posa la main sur le front, puis lui palpa les aisselles, mais ne constata ni fièvre ni ganglion. Très doucement, elle lui tapota la joue jusqu'à ce qu'il entr'ouvre les yeux. Le blanc avait une coloration jaunâtre, son haleine était fétide.
« Laissez-moi tranquille, »
gémit-il en tâtonnant pour se recouvrir.
« Si je vous laisse tranquille, j'ai peur que vous mouriez, très illustre. »
Elle s'essayait à adopter le ton qu'employait Kiki avec lui.
« Cela me chagrine fort de vous voir maltraité ainsi. Je vais prendre le risque d'aller voir le capitaine pour protester. »
L'idée de s'aventurer seule dehors la terrifiait, mais elle savait que c'était leur seule chance. Elle prépara les mots qu'elle allait débiter au capitaine si elle en avait le courage.
« Il est insensé de traiter de façon aussi scandaleuse le gouverneur de Jamelia. Cet homme mérite la mort, la perte de son nom et de son honneur. »
Le gouverneur ouvrit les paupières pour de bon et la dévisagea avec un morne étonnement. Il cligna les yeux qui étincelèrent d'une juste colère.
« Bien.
Si elle jouait correctement son rôle, il faudrait qu'il se montre à la hauteur, lui aussi. » Elle respira.
« Même sur cette grande baille, il devrait pouvoir vous trouver quelque chose de mieux. Est-ce que le capitaine loge dans une chambre nue, sans confort ni agrément? J'en doute. Mange-t-il aussi mal? Fume-t-il du foin? Quels que soient les adoucissements dont il jouit, il aurait dû vous en faire profiter quand vous êtes monté à bord. Jour après jour, vous avez patiemment attendu qu'on vous traite comme vous le méritez. Si le courroux de Jamelia s'abat sur eux, maintenant, ils n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Vous avez fait preuve d'une divine patience. À présent, je vais exiger qu'on remédie à cette situation scandaleuse. »
Elle croisa les bras.
« Comment dit-on, capitaine, en chalcédien ?»
La consternation passa sur le visage de Kosgo. Il avala de l'air.
« Le faille.
Le faille, »
répéta-t-elle. Elle le regarda plus attentivement. Des larmes d'apitoiement ou d'étonnement remplissaient les yeux du gouverneur. Elle le recouvrit, le borda comme elle l'eût fait pour Selden. Une singulière résolution avait pris corps en elle.
« Reposez-vous, seigneur. Je vais me préparer et je veillerai à ce que vous soyez traité comme le mérite le gouverneur de Jamelia. Ou bien je mourrai en essayant. »
Elle craignait bien que les derniers mots ne soient vrais. Quand il referma les yeux, elle se leva et s'attela à la tâche. Elle portait la même robe depuis qu'elle avait quitté Troisnous. Elle avait réussi à la rincer une fois à bord de la galère. Elle la retira en arrachant avec les doigts et les dents l'ourlet sale en lambeaux, puis la secoua, frotta le plus gros de la poussière et se rhabilla. Elle avait les mollets nus à présent, mais tant pis. Elle utilisa les morceaux de l'ourlet pour confectionner une longue tresse de tissu. Elle se passa les doigts dans les cheveux pour les démêler du mieux possible, puis entortilla la tresse autour de sa tête en turban. Ainsi coiffée, elle espérait paraître plus âgée et dissimuler la plus grande partie de sa cicatrice. Il restait un peu d'eau dans le pichet. Avec un bout de chiffon, elle se lava la figure et les mains, puis les jambes et les pieds. En souriant amèrement, elle se rappela avec quel soin elle s'était apprêtée pour le bal d'été. Combien elle s'était tracassée pour sa robe et ses mules.
« Port de tête et allure, »
lui avait conseillé Rack. « Soyez convaincue de votre beauté et tout le monde vous trouvera belle. » Elle avait été incapable de croire la servante. Aujourd'hui, ses paroles étaient son seul espoir. Après avoir fait de son mieux, elle composa son maintien. Dos droit, tête haute. Imagine que tu as des mules de brocart aux pieds, des bagues aux doigts, une couronne de fleurs sur la tête. Elle fixa des yeux furibonds sur la porte et dit d'un ton ferme « Le faille !» Elle respira à fond, souleva le loquet et sortit. Elle parcourut une longue coursive éclairée seulement par une lanterne à l'autre bout. Les ombres bougeaient avec la lumière et elle avait du mal à garder son port de reine. Elle passait entre des ballots arrimés de la cargaison. Leur variété éveilla ses soupçons. Les navires marchands honnêtes ne transportaient pas un si large choix de marchandises et leur arrimage n'aurait pas été fait avec cette négligence.
Des pirates ou des pillards, quoiqu'ils ne se considèrent sans doute pas comme tels, se dit-elle.
Le gouverneur ne représentait-il pour eux qu'un butin à vendre au plus offrant?
À cette idée, elle faillit revenir sur ses pas. Puis elle se ravisa. Malgré tout, elle allait exiger qu'il soit mieux traité. Une pareille marchandise aurait certainement plus de valeur si elle était en bon état.
Elle grimpa une petite descente de cabine et se retrouva dans une pièce bondée qui puait la sueur et la fumée. Des hamacs se balançaient ou ronflaient quelques dormeurs. Un matelot ravaudait des culottes de toile dans un coin. Trois autres étaient assis autour d'une caisse où étaient étalées les fiches d'un jeu. À son arrivée, ils tournèrent la tête pour la dévisager. Un blond, à peu près de son âge, osa lui faire un grand sourire. Sa chemise rayée crasseuse était à demi ouverte. Elle leva le menton et se rappela ses bagues chatoyantes et sa couronne de fleurs. Elle ne sourit pas, ne détourna pas les yeux. Mais elle tâcha d'imiter le regard désapprobateur de sa mère devant des servantes oisives.
« Le faille !»«
Le faille ?»
demanda incrédule un vieux grisonnant à la table de jeu. Ses sourcils se haussèrent jusqu'au crâne déplumé. Son voisin se mit à glousser. Malta resta impassible. Seuls ses yeux se firent plus froids.
« Le faille !»
répéta-t-elle sur un ton insistant. En haussant les épaules et en soupirant, le blond se redressa. Il s'approcha et elle se força à tenir bon. Elle dut lever les yeux pour croiser son regard. Elle eut du mal à garder sa contenance. Quand il tendit le bras pour la toucher, elle lui appliqua avec mépris une claque sur la main. Les yeux flamboyants, elle mit deux doigts sur sa poitrine.
« Au gouverneur !»
dit-elle froidement.
« Le faille, immédiatement !»
fit-elle d'un ton sec, sans se soucier de savoir s'il la comprenait. Le blond se retourna vers ses compagnons et haussa les épaules, mais ne tenta plus de la toucher. Et il pointa le doigt dans une direction. D'un geste, elle indiqua qu'il devait montrer le chemin. Elle n'aurait pas supporté d'avoir quelqu'un dans son dos. Il lui fit traverser rapidement le navire. Après avoir grimpé une échelle, ils débouchèrent par une écoutille sur un pont balayé par le vent. Elle fut éblouie par l'air frais et piquant, l'odeur de la mer, le soleil couchant derrière un banc de nuages vermeils. Son cœur bondit. Le sud. Le navire les emmenait vers le sud, vers Jamelia et non vers Calcède. Y avait-il une chance qu'un navire de Terrilville les repère et tente de les arrêter? Elle ralentit le pas, espérant apercevoir un signe de la terre, mais la mer se confondait avec les nuages à l'horizon. Elle ne pouvait même pas deviner où il se trouvait. Elle allongea l'allure pour attraper son guide. Il la conduisit à un homme grand et musclé qui donnait des instructions au matelot en train d'épicer des cordages. Le marin indiqua Malta d'un signe de tête et baragouina quelque chose. Elle saisit le mot « le faille ». L'homme l'inspecta cavalièrement de haut en bas, mais elle lui retourna son regard avec hauteur.
« Qu'est-ce que vous voulez ?»
Il lui fallut rassembler tout son courage.
« Je veux parler à votre capitaine. »
Elle devina qu'il devait s'agir du second.
« Dites-moi ce que vous voulez. »
Il s'exprimait avec un fort accent, mais distinctement. Malta croisa les mains sur sa poitrine.
« Je veux parler à votre capitaine. »
Elle prononça les mots lentement en les détachant comme s'il avait été tout bonnement stupide.
« Dites à moi. »
insista-t-il. À son tour, elle le regarda de haut en bas.
« Certainement pas !»
répondit-elle hargneuse. Elle secoua la tête, se tourna d'un mouvement auquel elle s'était exercée avec Dilo depuis l'âge de 9 ans, mouvement qui aurait fait tournoyer ses jupes si elle avait eu une robe convenable, et s'éloigna la tête haute, s'efforçant de respirer malgré le martèlement de son cœur. Elle essayait de se rappeler par quelle écoutille ils étaient montés quand l'homme s'écria
« Attendez !»
Elle s'arrêta. Elle tourna posément la tête pour le regarder par-dessus son épaule. Elle haussa un sourcil interrogateur.
« Revenez ! Je vous conduis au capitaine Deyaré. »
Il faisait de petits gestes pour être sûr d'être compris. Elle le laissa agiter la main vers elle plusieurs fois avant de rebrousser chemin avec une lenteur pleine de dignité. La chambre du capitaine à l'arrière était magnifique comparée à la cabine qu'elle partageait avec le gouverneur. Il y avait une grande fenêtre, un tapis épais sur le sol et plusieurs fauteuils confortables. Une agréable odeur de tabac et d'autres herbes flottait dans l'air. Dans un coin, le lit se parait d'un matelas de plumes rebondies, de douillettes courtes pointes et même d'une étole de moelleuse fourrure blanche. Des livres s'alignaient sur une étagère et des flacons contenaient des alcools divers. Le capitaine était assis dans un de ses fauteuils confortables, les jambes étendues, un livre dans les mains. Il portait une chemise grise en laine souple sur des culottes de drap. Des bas épais protégeaient ses pieds du froid. Ses bottes solides séchaient près de la porte. Malta envia cette chaleur, ses vêtements propres et secs. Il leva les yeux avec agacement à leur entrée. En la voyant, il interrogea le second sur un ton rogue. Avant que l'homme ait pu répondre, Malta le devança habilement.
« Le Faye des Yari. Selon le bon plaisir du très clément gouverneur, je viens vous offrir l'occasion de corriger vos erreurs avant qu'elles ne deviennent irréparables. »
Elle le regarda froidement dans les yeux et attendit. Il la fit attendre. Une certitude glacée envahit Malta. Elle avait mal calculé. Il allait la faire tuer et jeter par-dessus bord. Elle ne montra que la froideur sur son visage. Des bijoux aux doigts, une couronne de fleurs, non, d'or massif sur le front. C'était lourd. Elle leva le menton pour en supporter le poids et scruta les yeux pâles du capitaine.
« Le très clément gouverneur Kosgo, »
dit finalement l'homme d'une voix sans timbre. Il parlait clairement, sans accent. Malta fit un petit signe d'acquiescement. « Il est le plus patient des hommes. » Quand nous sommes arrivés à bord, il a excusé votre manque de courtoisie à son égard. Le capitaine, m'a-t-il expliqué, est certainement très occupé avec tous les hommes qu'il a recueillis à bord. Il doit écouter des rapports, peser des décisions. Le gouverneur sait ce que commander veut dire, voyez-vous. Il m'a dit « Réfrénez votre impatience à cette insulte qui m'est faite. Quand il aura le temps de préparer un accueil convenable, alors le Faye nous enverra chercher à cette misérable cabine, à peine mieux qu'une niche de chien, qu'il m'a attribuée. À mesure que les jours passaient, il vous a trouvé toutes sortes d'excuses. Peut-être étiez-vous malade, peut-être ne vouliez-vous pas le déranger tant qu'il reprenait des forces, peut-être ignoriez-vous les honneurs qu'on devait lui rendre. En tant qu'homme, il se soucie peu du manque de confort. Qu'est-ce qu'un plancher nu ou un maigre repas comparé aux épreuves qu'il a endurées au désert des pluies? Cependant, en ma qualité de fidèle servante, je suis scandalisée pour lui. Il suppose charitablement que vous lui avez offert ce qu'il y avait de mieux. » Elle marqua une pause et parcourut lentement la chambre du regard.
« Voilà qui ferait jaser à Jamélia, »
dit-elle à mi-voix comme pour elle-même. Le capitaine se leva. Il se frotta l'aile du nez avec vigueur, puis congédia d'un signe le second qui était resté à la porte. L'homme disparut sur le champ et referma la porte derrière lui. Malta perçut alors une odeur aigre de sueur, mais, extérieurement, le capitaine paraissait calme.
C'était une histoire tellement insensée, j'avais peine à y croire. Cet homme est vraiment le gouverneur de Jamélia?
Elle risqua le tout pour le tout. Son expression gracieuse disparut et elle baissa la voix pour accuser. « Vous savez très bien qui il est. Invoquer l'ignorance de son rang est une piètre excuse, commandant. »
« Et je suppose que vous êtes une dame de sa cour, alors. »
Elle ne broncha pas sous le sarcasme.
« Bien sûr que non. Mon accent est de Terrilville, comme vous le savez certainement. » Je suis la plus humble de ses servantes, honorée de le servir dans l'adversité. Je suis pleinement consciente de mon indignité. »
Elle continua à jouer son vatou.
Le décès de sa compagne Keki à bord de la galère chalcédienne l'a grandement éprouvée. Non qu'il en fasse reproche au capitaine de la galère, mais
si la compagne d'abord, puis le gouverneur soi-même meurt aux mains des Chalcédiens, voilà qui ne parlera guère en faveur de votre hospitalité. » Elle ajouta très doucement, « Il se peut même que dans certains milieux on y voit une intention politique. »
« Si jamais on l'apprend !»
rétorqua le capitaine lourdement. Malta se demanda si elle n'avait pas forcé la dose, mais la question suivante la rassura.
« Et d'abord, que faisiez-vous exactement en amont du fleuve ?»
Elle sourit mystérieusement. « Il ne m'appartient pas de divulguer les secrets du désert des pluies. Si vous désirez en savoir plus, il plaira peut-être au gouverneur de vous éclairer. »
Kosgo n'en savait pas assez sur le désert des pluies pour trahir quoi que ce soit d'important. Elle soupira.
« Ou non ? Pourquoi partagerait-il de tels secrets avec quelqu'un qui l'a traité d'aussi scandaleuse façon ? Pour qui se dit son allié, vous vous êtes montré un bien piètre hôte ? Ou sommes-nous vos prisonniers de fait autant que victimes des circonstances ? Vous nous détenez pour obtenir une rançon, comme si vous étiez un vulgaire pirate ?»
La brutalité de la question le fit sursauter. « Je... bien sûr que non, pas prisonnier. »
Il leva le menton.
« S'il était prisonnier, m'empresserais-je de l'emmener à Jamelia ?»«
Où il sera vendu au plus offrant ?» demanda sèchement Malta. Le capitaine inspira d'un air furieux, mais elle poursuivit. « Ce doit être tentant, naturellement. Il faudrait être un sot pour négliger cette éventualité au milieu du désordre actuel. Néanmoins, un homme avisé devrait connaître la générosité légendaire du gouverneur envers ses amis. Alors que la largesse d'un homme qui paie le prix du sang n'apporte que mépris et honte. »
Elle inclina légèrement la tête.
« Contribuerez-vous à cimenter l'amitié entre Chalcède et Jamelia ? Ou allez-vous ternir à jamais la réputation des Chalcédiens qu'on tiendra pour des renégats qui vendent leurs alliés ?»
Un long silence suivit ces paroles.
Vous parlez comme un marchand de Terrilville. Pourtant, les marchands n'ont jamais porté Chalcède dans leur cœur. Quel est votre intérêt dans tout ceci?
Ma vie, imbécile.
Malta feignit la surprise indignée.
Vous désirez connaître l'intérêt d'une femme, commandant? Alors je vais vous le dire. Mon père est originaire de Chalcède, mais mon intérêt à moi, bien sûr, n'entre pas en compte ici. Je ne considère que l'intérêt du gouverneur. »
Elle inclina la tête avec révérence.
Ces derniers mots lui laissèrent un goût de cendre dans la bouche. Dans le silence qui suivit, elle observa sur le visage de l'homme le cheminement prudent de sa pensée.
Il n'avait rien à perdre en traitant le gouverneur avec égard. Un otage vivant et en bonne santé rapporterait davantage, sans aucun doute, que s'il était aux portes de la mort. Et les marques de gratitude du gouverneur seraient peut-être plus substantielles que l'argent qu'il pourrait soutirer au noble Jamélien.
« Vous pouvez aller, » dit-il abruptement.
« Comme il vous plaira, »
murmura Malta d'un ton soumis teinté d'ironie. Il ne convenait pas à la compagne du gouverneur de se montrer trop humble. Kéki lui avait appris cela. Elle inclina gravement la tête puis lui tourna le dos au lieu de sortir à reculons. Qu'il en conclut ce qu'il voulait. Quand elle se retrouva dehors dans le vent glacé du soir, elle fut prise de vertige, mais elle se força à rester droite. Elle était épuisée. Elle redressa la tête, une fois de plus, sous le poids de sa couronne imaginaire. Elle ne se hâta pas. Elle reconnut l'écoutille, descendit dans les profondeurs nauséabondes du navire. En traversant les logements de l'équipage, elle feignit de ne pas remarquer les hommes. Quant à eux, ils interrompirent leur conversation et la suivirent des yeux. Elle regagna la cabine, referma la porte, alla jusqu'au lit et se laissa tomber sur ses genoux flageolants. Il était heureux que son accès de faiblesse corresponde au rôle qu'elle devait continuer à jouer.
« Votre grandeur, je suis revenue, » dit-elle à mi-voix. « Vous allez bien ?»«
Bien. Je suis à demi-mort de faim et une femme me corne aux oreilles. »
rétorqua le gouverneur.
Ah, je vois. Eh bien, seigneur, j'ai bon espoir d'avoir amélioré notre situation.
Vous, j'en doute.
Malta baissa le front sur ses genoux et resta un moment à trembler. Au moment où elle allait conclure à son échec, on frappa à la porte. C'était sans doute le mousse qui apportait le dîner. Elle se força à se lever et à ouvrir au lieu de simplement lui dire d'entrer. Trois solides gaillards se tenaient derrière le second. Celui-ci s'inclina avec raideur.
« Vous venez à la table du Lefaille ce soir. Vous, pour vous, lavez, habillez. »
Ce message semblait excéder l'étendue de son vocabulaire, mais d'un geste, il montra les hommes qui portaient des seaux d'eau fumante et des brassées de vêtements. Parmi eux, Malta remarqua des habits de femme. Elle l'avait convaincu de son propre rang. Elle se défendit de trahir son plaisir et son triomphe.
« S'il plaît au gouverneur, »
répondit-elle froidement, et d'un signe, elle leur ordonna d'apporter leur fardeau dans la cabine.
« Que feras-tu ?»
osa demander Yéma au navire. Un vent glacial soufflait dans la nuit. Il se tenait sur le gaillard d'avant, les bras serrés autour de lui pour se protéger du froid. Il taillait la route vers Partage. S'il n'avait dépendu que de lui, Yéma aurait calmé le vent, ralenti le navire, et il aurait fait n'importe quoi pour avoir le temps de réfléchir. La mer brasillait. La crête de la lame happait les rayons de lune et les déroulait avec elle. La clarté des étoiles se brisait et ondulait sur les dos des serpents qui moutonnaient à côté d'eux. Leurs yeux chatoyaient, cuivre, argent et or vif, rose surnaturel et bleu, comme des fleurs marines nocturnes. Yéma avait toujours l'impression qu'il l'épiait quand il était sur le gaillard d'avant. Peut-être était-ce vrai? Comme pour répondre à sa pensée, une tête se dressa hors de l'eau. Il ne pouvait en être sûr dans cette obscurité, mais il crut reconnaître le serpent d'or vert de la plage des autres. Durant quelques secondes, il demeura près du navire à l'observer.
« Deux pattes, je te connais. »
Yéma entendit le murmure dans sa tête, mais il ne put décider si le serpent lui parlait vraiment ou s'il se rappelait seulement sa voix sur la plage.
« Que ferais-je ?»
fit la figure de proue sur un ton railleur et indolent. Elle pouvait l'écraser à volonté. Yéma repoussa ses craintes vaines.
« Tu sais ce que je veux dire. Althea et Brachen sont à notre recherche. Ils nous guettent peut-être près de Partage. Ou alors ils nous affronteront dans le port. Que ferez-vous, toi et tes serpents ?»«
Ah, tu parles de ça. Eh bien... »
Elle se pencha en arrière, vers lui. Ses boucles noires se tordirent, on aurait dit un nid de serpent. Elle porta une main à sa bouche comme si elle allait lui révéler un secret, mais son chuchotement était sonore. C'était un chuchotement de théâtre destiné à Kenith qui arrivait en faisant résonner son pilon sur le pont.
« Je ferai ce qu'il me plaira. »
Elle sourit au pirate.
« Bonsoir, mon cher. »«
Bonsoir et bon vent, ma charmante, » répondit Kenith.
Il se pencha au-dessus de la lisse et effleura la grande main que la figure de proue levait pour le saluer. Puis, il sourit à Yéma, découvrant ses dents blanches comme celles d'un serpent dans le clair de lune.
« Bonsoir, Yéma. Tu vas bien, j'espère. » Quand tu as quitté ma chambre tout à l'heure, tu n'avais pas l'air dans ton assiette.
« Je ne vais pas bien, »
concéda-t-il platement. Il regarda Kenith et le cœur lui remonta dans la gorge.
« Je suis déchiré, et je ne peux pas dormir à cause des craintes qui me troublent. »
Il reporta les yeux sur la figure de proue.
« Je t'en prie, ne sois pas si désinvolte avec moi. Il s'agit de notre famille. » Althea est ma tante et ta compagne de toujours. Pense un peu, navire. Elle t'a inséré la cheville. Elle t'a accueilli quand tu t'es éveillé. Tu ne te rappelles pas?
Je me rappelle très bien qu'elle m'a quitté peu de temps après et qu'elle a permis à Kyle de me transformer en transport d'esclaves.
Foudre haussa un sourcil vers lui.
Si c'était là les derniers souvenirs que tu avais d'elle, « comment réagirais-tu en entendant son nom ?»
Il crispa les poings le long du corps. Il ne se laisserait pas distraire de sa préoccupation.
« Et qu'allons-nous faire? Elle est tout de même de notre famille. »«
Nôtre ?
Qu'est-ce que ce nôtre ?
Tu me confonds encore avec Vivacia. Mon cher petit, entre nous, il n'y a pas de nous ni de nôtre. Il y a toi et il y a moi. Quand je dis nous ou nôtre, ce n'est pas à toi que je m'adresse.
Elle caressa Kenneth des yeux. Yémin
s'obstina. Je me refuse à croire qu'il n'y a rien en toi de Vivacia. Sinon, pourquoi serais-tu si amer en évoquant tes souvenirs ?
Oh là là !
Maugréa le navire en soupirant.
On ne va pas recommencer.
J'ai bien peur que si,
répondit Kenneth d'une voix consolante.
Allez, Yémin, ne me regarde pas de cet œil noir. Sois honnête avec moi, fiston. Que veux-tu qu'on fasse ? Qu'on rende foudre à Althea pour éviter de te blesser ? Où est ta loyauté envers moi ?
Yémin vint lentement se placer à côté de Kenneth. Il finit par déclarer
« Je vous suis loyal, Kenneth. Vous le savez bien. Je crois que vous l'avez su avant que je le reconnaisse moi-même. Et si je ne vous étais pas loyal, je n'aurais pas tant de peine maintenant. »
Le pirate parut sincèrement ému par cet aveu. Il posa la main sur l'épaule de Yémin. Ils partagèrent un instant de silence.
« Tu es si jeune, mon cher petit. Dis tout haut ce que tu veux. »
La voix de Kenneth était réduite à un murmure. Le garçon se tourna vers lui, surpris. Le pirate avait le regard perdu dans la nuit comme s'il n'avait rien dit. Yémin prit une inspiration et tâcha d'ordonner ses idées.
« Ce que je vous demanderai à tous les deux, c'est de ne pas faire de mal à Althea. C'est la sœur de ma mère, elle est de mon sang et elle est de la vraie famille du navire. Foudre à beau le nier, je n'arrive pas à croire qu'elle puisse voir Althea mourir sans en être affectée elle-même. »
Il ajouta en baissant la voix.
« Je sais que moi, je ne pourrai pas. »
« Ton sang, de la vraie famille du navire !»
répéta Kenneth en serrant l'épaule de Yémin.
Quant à moi, je te promets de ne pas toucher un cheveu de sa tête. Navire ?
La figure de proue haussa ses grandes épaules.
Tout ce que Kenneth voudra. Je ne ressens rien, tu comprends ? Je n'ai aucun désir de la tuer ni de lui laisser la vie.
Yémin poussa un soupir de soulagement. Il ne croyait pas à l'indifférence de Foudre.
Il y avait trop de tension qui vibrait en lui pour qu'elle soit entièrement de son fait.
« Et son équipage ? »
hasarda-t-il.
Kenneth se mit à rire et lui donna une bourrade amicale. « Allons, Yémin, on ne peut quand même pas garantir leur sort. Si quelqu'un décide de se battre à mort, comment l'en empêcherais-je ? Mais tu l'as vu, ces derniers temps, on ne verse le sang que contraint et forcé. Considère tous les navires qu'on a laissés poursuivre leur route. Les transports d'esclaves, par exemple, c'est une autre affaire. En ce qui les concerne, je dois tenir mes engagements envers les sujets de mon royaume. Et ils doivent aller par le fond. On ne peut pas sauver tout le monde, Yémin. Il y en a qui ont décidé de se faire tuer par moi longtemps avant que je ne les affronte. Quand on se heurtera au capitaine Trelle et à Parangon, on agira selon les circonstances. Tu ne peux pas m'en demander plus, n'est-ce pas ?
Non, j'imagine.
Il avait fait de son mieux ce soir. S'il avait été seul avec la vive nef, aurait-il pu l'amener à admettre qu'elle était encore liée à Althea ?
Althea,
pensa-t-il farouchement à l'adresse du navire.
Je sais que tu te souviens d'elle. Elle t'a éveillé d'un long sommeil. Elle a salué ton retour à la vie. Elle t'aimait. Peux-tu tourner le dos à cet amour-là ?
Un frémissement agité parcourut le navire. Et à côté, un éclaboussement sonore annonça le retour du serpent d'or vert. La figure de proue, les yeux plissés et les narines dilatées, se retourna pour lancer un regard furieux à Yémin. Il rassembla son courage, s'attendant à une réaction violente de sa part. Mais ce fut Kenneth qui le secoua.
« Assez !»
ordonna-t-il sévèrement.
« Tu crois que je ne sens pas ce que tu es en train de lui faire ? Elle a dit qu'elle n'éprouvait rien,
accepte. »
Puis il lui donna une bourrade amicale.
« Les sentiments ont une fin, fiston. Foudre n'est plus pour toi ce qu'elle était. Pourquoi ne vas-tu pas voir Etta? Elle arrive toujours à te remonter le moral à ce qu'il paraît. »
Kenneth suivait des yeux Yémin qui traversait le tillac quand le charme se mit à parler. Il ne chuchota pas, n'essaya nullement de se cacher du navire.
« Les sentiments ont une fin, » fit-il moqueur. « Foudre n'est plus ce qu'elle était, oh certes. Convainc-toi de ça, mon petit cœur, et tu seras capable de t'occuper une fois encore de Parangon. »
Puis il baissa la voix et ajouta sur le ton de la confidence,
« Tu as toujours su que tu aurais encore affaire à lui, pas vrai ? Quand tu as entendu dire qu'une vive nef aveugle était retournée à Terrilville, tu as su que vos chemins finiraient par se croiser à nouveau ?»«
La ferme !»
La peur tint tel éclat de fureur de Kenneth. Il sentit ses cheveux le picoter sur la nuque.
« Je connais Parangon, »
déclara soudain le navire.
« C'est-à-dire, j'ai les souvenirs d'Althea sur lui. Et de son père, Ephron Vestrit ne l'aimait pas, ce navire. Il ne voulait pas que sa fille joue près de lui. Parangon est fou, tu sais, vraiment fou. »«
Oh, vraiment fou !»
approuva le charme aimablement.
« Mais alors, qui ne le serait pas ?» Étant donné tous les souvenirs qui ont imprégné son bordage, c'est même étonnant qu'il puisse encore parler. Tu n'es pas d'accord, Kenneth? N'est-ce pas assez pour rendre un gamin muet? Pas besoin de lui couper la langue, il a à peine prononcé un mot en 3 ans. Oh! Ygrotte croyait ses secrets bien gardés, tous ses secrets. Mais les secrets ont une fâcheuse tendance à transpirer.
« Tais-toi !»
murmura Kenneth d'une voix enrouée par la rage.
« Muet !»
souffla le bois sorcier sur son poignet.
« Muet comme un navire aveugle qui flotte la coque en l'air. Muet comme un cri sous la mer.